France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Après l'Europe, la peur gagne le continent américain. Une nouvelle variante du Covid-19 se répand à grande vitesse au Royaume-Uni. Elle serait 70% plus contagieuse que la version que nous connaissons en France, par exemple. Et des pays coupent donc les ponts avec Londres. Le Canada, par exemple, vient d'interdire les vols en provenance de Grande-Bretagne. De son côté, la France interdit à partir d'aujourd'hui tout transport de passagers ou de marchandises, et ce pour au moins 48 heures. Pas d'avion, pas de ferry, ni de train. Il faudra probablement un test PCR négatif pour les ressortissants français s'ils veulent rejoindre leur pays d'origine quand les frontières seront rouvertes. Une réunion de crise doit avoir lieu aujourd'hui à Londres après un nouveau record de cas recensés de Covid-19 ces dernières 24 heures. En France, le plateau épidémique est toujours haut. Plus de 12 000 cas positifs au Covid-19 enregistrés hier. Situation stable en réanimation dans les hôpitaux. Après avoir étudié des milliers de données fournies par les laboratoires Pfizer et BioNTech, l'Agence européenne du médicament doit se prononcer aujourd'hui. Elle doit dire si elle donne ou non son feu vert au vaccin. Les États européens pourraient ensuite commencer leur campagne de vaccination dans une semaine environ. Autre décision attendue avec impatience, cette fois en France, par le monde de la culture. Le Conseil d'État examine ce matin les recours contre la fermeture des cinémas ou des théâtres confinés de force par le gouvernement jusqu'au 7 janvier au mieux. Les juges du Conseil d'État auront ensuite 48 heures pour se prononcer. Aux États-Unis, il ne manque plus qu'un vote prévu aujourd'hui pour valider le deuxième plan de relance face au Covid-19. Après plusieurs mois de négociations, les démocrates et les républicains du Congrès ont enfin trouvé une position commune hier soir. Près de 900 milliards doivent être débloqués, 900 milliards de dollars, pour des familles les plus modestes, mais aussi pour permettre une distribution plus équitable des vaccins anti-Covid.
Alors que Noël approche à grands pas, nous avons choisi de mettre le cap au nord vers les terres de Santa Claus pour nous intéresser aux pays nordiques.
Culture Monde, Florian Delorme.
On répète à l'envi qu'ils sont parvenus à développer des modèles de société dont il faudrait s'inspirer. Mais qu'en est-il réellement ? À quoi ressemble leur état-providence ? Est-il menacé aujourd'hui ? Est-ce vraiment le havre de paix, l'idéal démocratique qu'on imagine souvent ? De l'Islande à la Finlande, en passant par la Norvège, le Danemark et la Suède, les pays nordiques sont à l'épreuve cette semaine dans Culture Monde.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Le meilleur des chemins en 2020, c'est de la philosophie, du cinéma et du théâtre.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
Retour au monde avec Husserl, Les Affranchis de Martin Scorsese, Qu'est-ce que le mal radical dans l'œuvre d'Emmanuel Kant et enfin Hamlet de Shakespeare par Olivier Py. De quoi tenir bon jusqu'à Noël.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 6h03, c'est l'heure du monde vivant, la chronique de Bruno David, grâce à qui vous découvrez ce matin le mosasaur, le lézard volé.
Novembre 1794. Le chanoine Theodorus Johannes Göding a rendez-vous chez lui à Maastricht avec le français Augustin Lucie de Frayssines. Objet de ce rendez-vous, un animal aussi mystérieux que gigantesque, le grand animal de Maastricht, également appelé le lézard de la Meuse. Quoi, on aurait trouvé un lézard géant dans les forêts des environs ? Pas du tout. Il s'agit d'un crâne fossile découvert en 1766 dans une carrière qui exploite des calcaires datant de la fin du Crétacé. Göding est le propriétaire du fossile. Il est inquiet et il a raison. Car Maastricht, forteresse autrichienne, vient d'être prise par les troupes de Kléber 4 jours auparavant. Cette visite de Frayssines ne lui dit rien qui vaille. D'autant moins que Frayssines n'est pas scientifique, mais commissaire politique de la République française. En attendant, le Français n'arrive pas. À sa place arrivent 6 soldats avec une charrette. Ils expliquent que Frayssines est souffrant et qu'il veut regarder le grand animal chez lui. Göding s'oppose mollement. Les soldats chargent le fossile. La révolution ne perd pas de temps. Le 12 novembre, soit 4 jours après la saisie, la Convention nationale publie un décret disant que le spécimen doit être transporté à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle. Il y arrive au printemps 1795, en même temps qu'est recruté un jeune homme prometteur, Georges Cuvier. Pourquoi s'être empressé de faire venir ce fossile à Paris ? On ne sait même pas vraiment ce que c'est. Le collectionneur Johannes Hoffmann penchait pour un crocodile. Le savant Petrus Camper y voyait une baleine à dents. Son fils Adrian Camper suggéra qu'il s'agissait d'un lézard marin. Georges Cuvier confirmera cette hypothèse en appliquant les principes de l'anatomie comparée et l'animal recevra le nom de Mosasaurus hoffmanni en 1829. À l'époque, on s'interroge de plus en plus sur les fossiles et le mosasaur est une pièce majeure qu'il faut avoir. Comment expliquer la présence d'un tel animal en Hollande ? Est-ce un délaissé de l'Arche de Noé ? Dieu a-t-il créé des espèces condamnées à l'extinction ? Cuvier apportera une réponse en supposant une série de catastrophes planétaires successives, les révolutions du globe, suivies de recréations. Un peu ennuyeux, car Dieu aurait fait des brouillons. Mais bon, un moindre mal, car certains révolutionnaires auraient voulu ramener l'animal pour prouver que Dieu n'existe pas. Mais que sont les mosasaures pour la science d'aujourd'hui ? Le genre Mosasaurus est connu de la fin du Crétacé, entre moins 80 et moins 66 millions d'années. Les mosasaures ne sont pas des dinosaures, mais d'énormes lézards marins proches des varans, de formidables prédateurs qui ont hanté les mers du Crétacé. Les Néerlandais présentent aujourd'hui au public un moulage de leur mosasaur en indiquant que la France a volé l'original. Néanmoins, dans le contexte européen et scientifique d'aujourd'hui, le mosasaur est devenu patrimoine de l'humanité. Il s'agit plutôt d'un sujet de taquinerie entre musées.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Ils s'appellent Ludovic et Maxime. Ils sont infirmiers de campagne dans les Landes. Et Fanny Chéroux, reporter à la Croix Hebdo, les a suivis pendant une année dans leur tournée, en été comme en hiver, avant et pendant la pandémie du coronavirus. Son beau reportage a donné naissance à un beau petit livre illustré par des dessins de Jeff Porquier, qui sort aux éditions du Palais. Ils sont infirmiers de campagne, c'est le titre de l'ouvrage. Et Fanny Chéroux est l'invitée du Réveil culturel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et c'est parti.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Et bonjour Fanny Chéroux.
Bonjour.
Vous avez passé une année en compagnie de ces deux infirmiers de campagne. Vous avez fait les tournées avec eux. C'est une idée qui vient de vous, Fanny Chéroux, ou c'est une commande journalistique ?
En fait, je fais partie d'une rédaction. Donc, en fait, dans une rédaction, on a le matin, le moment où les idées tombent et puis elles sont discutées, débattues. Et plus on les défend avec passion, plus en général, elles attirent l'attention. Et j'avais des raisons de défendre en fait cette immersion avec donc Maxime et Ludovic, que nous on appelait même Max et Ludo, parce que c'était des infirmiers de campagne qui s'occupaient de ma grand-mère en fait. Donc l'idée est venue de moi. Je pense qu'il y avait un vrai désir de la part du journal où je travaille de donner la parole aussi à des soignants en milieu rural, et donc les deux nécessités se sont rencontrées, on va dire. Voilà. En fait, le village où travaillent Max et Ludo, c'est le village de mon enfance. C'est le village de Saint-Perdon, qui est situé à quelques petits kilomètres de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Donc on est là, on est dans le sud-ouest de la France, voilà, près de la forêt des Landes de Gascogne.
Mais généralement, aujourd'hui, quand on fait un reportage, y compris avec un beau sujet comme celui que vous avez choisi, Fanny Chéroux, on reste au maximum une semaine, 10 jours. Vous avez décidé de passer une année avec ces infirmiers.
Pour le besoin du magazine, quand il s'agissait juste de faire un reportage, j'y suis restée pendant presque 3 semaines. Ce qui est déjà beaucoup, hein, parce que quand on est journaliste aujourd'hui, c'est compliqué de se détacher aussi longtemps pour une immersion. Mais là, c'était nécessaire, parce qu'il fallait quand même prendre le rythme des tournées de deux infirmiers. Et après ça, moi, le contact est resté. Et puis, le projet du livre est né. Et je suis revenue à l'occasion de week-ends, de vacances, très régulièrement. Et surtout, je suis restée en lien, en fait, avec Max et Ludo. Il y a eu toute cette période du confinement où on s'est appelés très régulièrement. Et ça m'a permis de garder, en fait, un ancrage et un rythme avec eux. Et surtout, eux, j'ai aussi ressenti qu'ils avaient ce besoin, en fait, de revenir à moi, parce que pour eux, c'était très inattendu que quelqu'un entre comme ça dans leur vie pour les raconter. Personne n'est habitué à laisser comme ça une place à côté de soi pendant qu'on travaille à un regard extérieur qui vient picorer des détails, raconter avec vraiment un regard neuf, quoi. Quelque chose de très toujours étonné, un peu émerveillé.
Alors, vous racontez justement l'histoire de ces deux infirmiers, Ludovic et Maxime, mais aussi l'histoire de ce village, de ces villageois. Et c'est une manière aussi de nous rappeler les déserts médicaux qu'il y a en France. Et cette fois-ci, on le vit au jour le jour.
Je pense qu'on peut pas parler de deux infirmiers de campagne sans parler du village où ils travaillent, parce que leur vie professionnelle se mêle à leur vie personnel. L'un des deux infirmiers vit dans le village, d'ailleurs, Ludovic, et sa vie devient celle du village. Il a son enfant qui est scolarisé dans ce village. Les gens qui le croisent à la fois le voisin, mais ils croisent celui qui est venu soigner leur enfant, parfois leurs parents, parfois eux-mêmes, celui qui leur donne des soins parfois quotidiens. C'est ça peut-être toute la beauté de ce métier et à la fois la dureté, parce que ce sont que des histoires vraies qui sont dans ce livre. C'est d'abord l'histoire de ces deux infirmiers, mais c'est aussi l'histoire de patients, de personnes qui ont accepté d'ouvrir leurs portes. À chaque fois qu'on entre dans une maison, en fait, on est à la fois dans le soin, mais dans la vie. Donc, tout s'entremêle en permanence. Et c'est vrai que le village vibre à travers ces deux personnages qui sont un peu devenus les veilleurs d'autrefois, qui étaient peut-être le curé, qui était le médecin de village. Ils sont devenus un peu ces relais. Et on parle beaucoup de déserts médicaux. Mais c'est des grands mots, et tout d'un coup, quand on s'intéresse vraiment à la question, on se rend compte que dans le désert, du coup, une petite lanterne illumine encore plus, quoi.
Et dans ce village, il y a surtout des personnes âgées, Fanny Chéroux.
Dans les villages français, de manière générale, il y a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de jeunes, même si on voit qu'il y a un retour au monde rural, et je pense en plus que la période qu'on traverse donne des vocations aussi de ce côté-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la France est un peu soit urbaine, soit rurale. Et c'est vrai que ce monde rural, on l'entend pas tant que ça. Et c'est ce qui m'a, moi, beaucoup intéressée dans cette immersion, parce que il y a ce qu'on croit savoir, sachant qu'en plus, c'est un village que je pensais connaître. Et finalement, il y a tout ce qu'on découvre et qu'on ne pouvait pas imaginer.
Max et Ludo, c'est ainsi qu'on les appelle effectivement au village, les deux infirmiers avec qui vous avez passé une année à faire des tournées, à voir comment ils évoluent. D'autant plus que, Fanny Chéroux, vous avez commencé le reportage quelques mois avant la pandémie du Covid. Vous pouvez pas le deviner, mais du coup, on voit aussi comment ils vont s'adapter aux nouvelles règles pour continuer à faire leur travail.
Le reportage, il a lieu en octobre 2019, donc on est quand même encore loin de l'épidémie. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas deviner, mais cette année s'est transformée en une année quand même très spéciale sur le plan sanitaire. Et on ne peut pas dire que les villages, surtout pendant la première vague, aient été très touchés, parce qu'on a bien constaté que ce virus, il circule dès qu'il y a une densité humaine. Mais ne serait-ce que la peur, en fait, que le virus arrive a presque autant d'importance parfois que le virus lui-même. Et on se rend compte que dans un village, qu'est-ce qui nous raccroche à la réalité du virus? Ça va être la télé, ça va être les on-dit, ça va être les rumeurs, ça va être tous les bruits. Et finalement, à chaque fois que Ludo, Max rentrent dans une maison, ils sont là pour rassurer, ils sont là pour, eux, prendre des précautions. Puis tout d'un coup, ils se tiennent à distance physique parce qu'ils sont soumis aussi aux règles de ce virus, voilà.
Et dans ce livre, donc, on fait la connaissance des villageois. Bien sûr, on apprend à connaître les deux infirmiers, mais ensuite, il y a tous les villageois que vous rencontrez. C'est autant de portraits très très sensibles sur la condition des ruraux dans la France d'aujourd'hui. Fanny Chéroux, elle était où votre place? Parce que vous parlez effectivement de Ludovic, de Maxime, des deux infirmiers, vous parlez des villageois, et vous êtes tout le temps avec eux. Comment ça s'est passé?
Je pense que le fait d'être une enfant du village a beaucoup aidé. Je suis pas sûre que les villageois auraient ouvert leurs portes à, je cite, mais même si c'est pas, c'est sans a priori, mais à une journaliste parisienne. Je pense que vraiment ça n'aurait pas pu se faire si je n'avais pas été la petite fille de cette grand-mère, en fait. Et même si je ne les connaissais pas personnellement, c'est marrant parce que dans un village, en fait, on n'est jamais totalement anonyme. Si par malheur ou par bonheur, on est d'ici, de ce coin-là, on existe aussi, c'est-à-dire on va croiser quelqu'un dans une boulangerie, par exemple, mais on va être Fanny, plus la fille d'eux, plus la petite fille d'eux, plus l'arrière-petite fille d'eux. Et si on ne connaît pas mon histoire, on connaîtra celle de mes anciens, en fait. Donc, en fait, on n'est jamais totalement anonyme. J'étais là, évidemment, comme journaliste, j'ai pas caché mon jeu du tout. J'étais là aussi parce que Max et Ludo avaient accepté que je sois avec eux. Et donc, tout ça n'est qu'un maillage de confiance. Le fait d'être une enfant du pays. Et après, le fait que Max et Ludo aient dit à leurs patients, nous, on accepte qu'elles soient à nos côtés. Est-ce que vous acceptez? Il y a des maisons où je ne suis pas rentrée. Il y a des maisons où certains patients ont demandé à ce que je reste dans la voiture. Et c'était pas du tout un problème. Moi, ça me permettait de rester à réfléchir, à imaginer ce qui pouvait se passer dans cette maison. Et il y a des maisons où j'ai pu rentrer. Voilà, c'est un travail de patience et de, surtout d'humilité, forcément, ouais.
Alors, parlez-nous justement de Ludovic et de Maxime. Ludovic, le Basque, le corto-maltese des terres, vous le décrivez très bien, qui vit au milieu des pins dans une maison en bois, avec son fils, qu'il a une semaine sur deux. Et plus jeune, Maxime, l'Alsacien blond, aux yeux bleus, qui l'a rejoint il y a 3 ans, c'est ça? Parlez-nous d'eux.
Mais vous les avez pas mal décrits. En fait, ce qui est assez touchant dans leur tandem, c'est qu'ils sont très complémentaires, très différents. Ils ont 10 ans d'écart. Ludo, donc le Basque, assez ténébreux, toujours un béret sur la tête. Il faut vraiment qu'il fasse très chaud pour qu'il enlève son béret.
D'ailleurs, ça fait parler les villageois, hein, le béret de Ludovic. Chacun a sa petite explication à donner.
Mais oui, il y en a qui disent qu'il est landais, ce béret, il y en a d'autres qui diront qu'il est basque, d'autres béarnais, mais je vous garantis que quand on vient de là-bas, c'est un vrai débat, hein. Ça a l'air anecdotique, mais l'origine du béret, c'est un sujet en soi, et l'énigme n'est pas totalement résolue, mais en tout cas, Ludo, oui, c'est sûr, il y a même des patients qui lui ouvriront pas la porte s'ils reconnaissent pas la silhouette du béret, hein. Enfin, pour lui, c'est mieux que la voix, quoi, ça leur parle plus. Donc il y a cette complémentarité entre les deux. Max, c'est vrai qu'il est d'origine alsacienne, mais il s'est un peu plié aussi à la tradition. Il a appris des mots de gascon pour pouvoir, vous savez, dans la douche ou dans des gestes de soins particuliers, ça peut vraiment tisser un rapport de confiance aussi d'être dans le dialecte du village. Et donc Max, il se sent en fait landais. Tous les deux, ils ont vraiment adopté ce village, mais avec un rapport au métier et à leurs patients qui est quand même très singulier. C'est-à-dire, on les confond pas tous les deux. On les confondra jamais. Il y a des patients qui sont plus à l'aise avec l'un, d'autres avec l'autre. Et c'est en fait ce côté où ils vont être eux toujours dans la complémentarité et surtout pas dans la rivalité que je trouvais aussi très beau en fait, parce que c'est un équilibre à tenir un cabinet d'infirmière.
Et ils travaillent en alternance?
Exactement, une semaine sur deux, c'est l'un puis l'autre, donc c'est des semaines très intenses. Après, l'un d'eux vit dans le village, l'autre, Max, est à plusieurs kilomètres, à plusieurs dizaines de kilomètres, donc est moins dans le village. D'ailleurs, il est beaucoup plus préservé. Et c'est aussi cette comparaison qui me semblait intéressante. Ludo vit dans le village, donc il appartient d'une certaine façon aux villageois. Et c'est à la fois beau, mais c'est cruel, parce que c'est un garçon qui, du coup, est voué à ça. En fait, c'est devenu... Il le dit lui-même, hein, un sacerdoce. Il y voit la beauté et la cruauté lui aussi, et il a réussi à m'en parler. Et en contraste, il y a ce Max qui a 30 ans, comme moi d'ailleurs, qui est 10 ans plus jeune, qui est assoiffé de liberté, qui voit l'avenir devant lui et qui se dit encore libre en fait, qui n'est pas encore rattaché comme ça à des villageois qui pensent que le soin leur est dû et que l'infirmier leur est dû, quoi.
Alors, ils sont pas seulement soignants, ils sont aussi les confidents de ces villageois. On va en parler dans un instant, Fanny Chéroux. Ils sont infirmiers de campagne, c'est le titre de votre ouvrage qui est édité par les Éditions du Palais.
J'aime chanter mon beau pays des Landes. J'aime écouter le chant de ses forêts. J'aime fouler le sable de sa lande, aller rêver près des lacs enchantés. J'aime braver le vent fou de mes landes et me griser sous son ciel lumineux. J'aime chanter mon beau pays des Landes, car le chanter pour moi c'est merveilleux. Nous avons la fierté que possède tout Basque, l'audace des Gascons, l'humour des Béarnais. Mais mon pays landais n'a pas l'humeur fantasque, il vibre à l'unisson de tous les cœurs français. J'aime chanter mon beau pays des Landes, j'aime écouter le chant de ses forêts. J'aime fouler le sable de sa lande, aller rêver près des lacs enchantés.
Ils sont infirmiers de campagne, Ludovic et Maxime, et ils ont passé une année en compagnie de Fanny Chéroux, journaliste, mais qui connaît très bien ce village. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous décrire ce village? Parce qu'il y a... on rencontre toutes sortes de personnes dans ce village, des riches, des moins riches. Il y a beaucoup aussi de solitude et de misère. Ils peuvent aller faire, dans leur tournée, rendre visite à une personne dans une maison somptueuse, entourée de chênes, ou alors... aller taper dans des mobil-homes perdus quelque part dans les Landes.
Oui, le village de Saint-Perdon, c'est un village qui est vraiment pas très loin de Mont-de-Marsan. Et c'est le fait d'être dans cette couronne qui a fait qu'il a grandi très vite. Donc vous imaginez un village aux confins des bois, quand même, avec des pins, des lignées de pins, des pinèdes, on appelle ça des pinèdes. Donc ça sent vraiment le pin, hein. Ça sent le bois. Si on ouvre la fenêtre de la voiture, ça sent vraiment l'odeur des Landes. Mais on est sorti de la ville et là on arrive sur une branche d'une nationale et qui nous amène d'une départementale qui nous amène dans ce village, pas loin d'une base militaire. Donc il y a des métiers très variés, mais qui sont aussi l'activité économique de la région. Et puis, il y a les maisons très anciennes qui ont toujours été là, de gens qui se connaissent depuis des générations. Il y a le coin un peu plus pavillonnaire qui a poussé dans les années 80-90 et qui continue de s'étendre. Et après, il y a des maisons isolées, là, qui sont encore, qui dépendent de campagnes, de Saint-Perdon, des villages, des communes, mais qui sont en fait des petites maisons isolées complètement au milieu des, là pour le coup, au milieu des bois. Et donc on a un patchwork pas possible, mais alors impressionnant, parce que Max et Ludo, quand ils conduisent, ils ont le GPS dans la tête. Et du coup, ils se repèrent très bien et chaque tournée est quand même un espèce de quadrillage où tout est quand même pensé en termes de proximité, quoi. Ils vont d'une maison à l'autre en sachant très bien où ils vont, quand et dans quel ordre.
Et c'est autant d'histoires qu'ils vont partager avec leurs patients, ces deux infirmiers, avec Josette, avec André, avec Gabriel, avec Francis. Vous racontez toutes ces histoires, vous racontez aussi comment ces deux infirmiers les accompagnent, pour un bon nombre d'entre eux, jusqu'au grand sommeil, pour aller très vite.
Oui, pour aller très vite, mais très bien aussi, parce que c'est vraiment ça. Vous savez, moi, quand j'ai connu ces deux infirmiers, je pensais qu'ils entraient dans la maison de cette grand-mère, qui était ma grand-mère, de façon un peu unique, parce qu'on se sent toujours quand même un peu unique. Et ma grand-mère, la première, hein, se sentait unique. Et finalement, en montant dans la voiture avec eux, j'ai compris que chaque personne était unique et qu'ils en avaient comme ça des dizaines par jour. Et c'est ça qu'en fait j'ai trouvé beau à raconter, et ça je pouvais pas l'imaginer.
C'est une vocation pour vous que d'être infirmier de campagne ?
Être infirmier de campagne, je pense que c'est une passion, c'est une vocation. Je pense que c'est un métier qu'on apprend à la fois sur les bancs de l'école, mais comme beaucoup de métiers, on l'apprend surtout sur le terrain. Je pense que c'est une chance quand même d'avoir croisé Max et Ludo. Ils sont très en lien avec tous les professionnels du soin, en fait. Mais en fait, Au-delà de ça, il y a quand ils vont s'occuper d'un homme, par exemple, et son épouse qui est jamais loin, mais dont ils ne s'occupent pas. Si leur patient meurt, régulièrement, ils vont passer dans cette maison juste pour saluer l'épouse et lui demander si tout va bien. En fait, alors que ça, pour le coup, c'est pas du tout dans leur fiche de poste, si je puis dire. Il y en a pas, mais en fait, en tout cas, ça ne fait pas partie de leur leur planning. C'est pas rémunéré.
Exactement. C'est comme pour le patois, parce qu'ils ont fini par apprendre aussi le patois du village.
Ils ont appris le patois du village aussi, parce que je pense que c'est une chanson, en fait. Il y a comme un rituel, hein, quand ils arrivent chez les gens, il y a les phrases. Je pense qu'ils pourraient les dire d'avance, ces phrases. Il y a vraiment comme un rendez-vous, il y a quelque chose d'un rituel, vraiment. Il y a des patients chez lesquels ils entrent, ils vont parler du temps, ils vont parler... Mais malgré tout, chaque jour, c'est un petit peu différent. Et comme vous le soulignez, il y a ce côté des histoires aussi. Et attention, je pense pas qu'il soit unique, Max et Ludo. Je pense vraiment qu'il y a une forme d'universel aussi dans ce métier. C'est un métier d'histoire, en fait. Et ça, on peut pas l'imaginer. Moi qui suis, dont le métier est de raconter des histoires, je pouvais pas imaginer à quel point rentrer dans la voiture de Max et Ludo, ce serait un puits d'histoire. C'est incroyable. Et je pense que ça fait partie de leur vocation. De tendre l'oreille à ces histoires, de tendre l'oreille à nos anciens. Il y a la grande histoire, parce qu'ils en font partie. Ils ont presque un siècle pour certains patients. Et il y a les histoires de famille. Et puis, il y a les histoires qu'on raconte. Et celles-là, je pense que c'est les plus drôles, parce que c'est ce que dit parfois Ludo. Peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, mais elles sont si bonnes à raconter, si bonnes à entendre. Et je pense que toute personne qui a soit grandi, soit qui est passée dans un village régulièrement dans sa vie, qui a un village qui lui est familier, ou une personne âgée, on a tous un peu en mémoire, je pense, ce moment où on entend une histoire. On se doute qu'elle n'est pas totalement vraie, on se doute que la personne qui la raconte en rajoute des tonnes, mais il y a quelque chose de tellement gourmand dans la façon de la raconter, d'y mettre de la joie, qu'on la prend, en fait, et peu importe, finalement. Je veux dire, on est très loin du fake news, c'est pas du tout ça, l'enjeu. Là, c'est vraiment la gourmandise de raconter, quoi, c'est ça.
Ils sont nombreux, aujourd'hui, les infirmiers de campagne en France, Fanny Chéroux, vous qui avez fait un grand reportage pour la Croix l'Hebdo.
Oui, ils sont quand même des dizaines de milliers, donc c'est là que il faut, moi, je pense que, à la fois, l'histoire de Max et Ludo est forcément unique, à la fois... Je pense qu'elle, et je le vois aussi avec les retours sur des personnes qui l'ont lu et qui travaillent dans ce domaine, ou qui ont travaillé et qui tout d'un coup se sont senties nostalgiques parce qu'elles se sont souvenues de ce qu'était ce métier. Et honnêtement, je pense vraiment que chaque infirmier, même pas forcément de campagne, chaque infirmier a accès comme ça à l'intimité de la personne dont il s'occupe.
Voilà. Ils sont infirmiers de campagne, c'est le titre de votre ouvrage. On n'a pas eu le temps de dire à quel point les dessins, les illustrations de Jeff Porquier accompagnent très bien votre reportage dans ce livre édité par les éditions du Palais. Merci beaucoup Fanny Chéroux d'avoir fait avec nous ce réveil culturel.
Merci à vous, bonne matinée.
À vous aussi.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Fanny Chéroux a également filmé Ludovic et Maxime, les deux infirmiers de campagne qui sont les héros de son petit livre. On peut retrouver la vidéo à la page du Réveil culturel sur franceculture.fr. Émission préparée avec la complicité de Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Jean-Guy Lamège. Passez une bonne journée, à demain.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Comment raconter l'histoire autrement, avec des atlas, des bandes dessinées, des romans et des jeux vidéo?
L'histoire s'écrit chaque matin sur France Culture, Xavier Mauduit.
Quand l'histoire rebat les cartes, l'historien est à la manette, histoire de buller, d'apprendre et de comprendre.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr. France Culture présente Aux sources du funk.
Un vinyle dans un livret de 28 pages pour plonger dans l'Amérique brûlante des années 60 et 70, qui voit la soul music devenir la funk. Avec une playlist originale et un récit sur mesure, Aux sources du funk est un vinyle book adapté de l'émission Jukebox d'Amaury Chardot, le dimanche à 15h sur France Culture et sur l'appli Radio France. Aux sources du funk, un vinyle book France Culture, actuellement dans les parcs.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. De nombreux pays, et notamment la France, suspendent leur liaison avec le Royaume-Uni à cause d'une nouvelle souche de SARS-CoV-2 plus contagieuse. La vaccination anti-Covid, vous l'entendrez, est d'autant plus attendue. C'est d'ailleurs aujourd'hui lundi que l'Agence européenne du médicament pourrait donner son aval à la commercialisation du vaccin de Pfizer et BioNTech. Retour sur les succès du laboratoire allemand dans ce journal. Nous irons aussi aux États-Unis où le Congrès vient de se mettre d'accord pour débloquer de nouvelles aides. 900 milliards de dollars directement dans les poches des Américains. Et puis, nous irons à Marseille où aura lieu ce matin le conseil municipal pour consacrer le socialiste Benoît Payan, futur maire de la ville, sauf énorme surprise. Un cordon sanitaire autour de la Grande-Bretagne se met en place. Le sud-est du pays est victime d'une nouvelle souche du SARS-CoV-2 plus contagieuse. La France, parmi d'autres pays européens, a décidé par précaution de suspendre les déplacements de personnes depuis l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Cela a lieu depuis minuit cette nuit et pour au moins 48 heures. Selon le maître de conférence en épidémiologie, Mircea Sofoana, cette souche est certes plus contagieuse, mais elle ne présente pas pour autant une menace pour l'efficacité des futurs vaccins. Écoutez.
Pour le moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter complètement parce que, si vous voulez, la façon dont les vaccins qui vont être déployés agissent, c'est en présentant l'ensemble de la protéine spike. Or ici, toute la protéine spike n'est pas modifiée. Donc, en fait, l'antigénicité produite par le vaccin permettra d'avoir en fait une bonne réponse immunitaire même contre quelques mutations ponctuelles. Le problème, effectivement, c'est si un grand nombre de mutations ponctuelles s'accumulent, là, ça pourrait poser problème. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air, d'après les spécialistes qui travaillent sur ces aspects-là, d'être un frein en fait à la campagne vaccinale.
Pas d'inquiétude, nous dit donc cet épidémiologiste Mircea Sofoana. Alors que les vaccins commencent à être administrés, nous irons à Londres dans le journal de 7h sur France Culture pour comprendre ce qui se passe sur place. Les vaccins donc comme solution salvatrice dans cette crise épidémique. L'Agence européenne du médicament se penche aujourd'hui sur la proposition des laboratoires Pfizer et BioNTech. Elle doit rendre son avis pour une autorisation de mise sur le marché dans les heures qui viennent. En cas de feu vert, ce sera ensuite à la Commission européenne de donner son autorisation dans les 2 jours qui viennent. Alors, ce vaccin prometteur est notamment l'œuvre de BioNTech, un laboratoire allemand dirigé par un couple de chercheurs d'origine turque. Portrait de ce couple ce matin avec Ludovic Piétenu.
Il est un témoin privilégié du succès de BioNTech. Le professeur Ulrich Förstermann a rencontré le couple Sahin Türeci au début des années 2000 quand ils sont arrivés à la faculté de médecine de Mayence dont il est aujourd'hui le directeur scientifique.
Ils étaient des jeunes chercheurs et médecins. J'étais impressionné par leur précision de la présentation de recherche. C'était exceptionnel.
Et c'est grâce au soutien de l'université qu'ils ont pu installer BioNTech dans un bâtiment tout neuf.
On a au début loué pour eux. Ils étaient financièrement pauvres à l'époque.
L'adresse choisie s'est révélée être une prophétie.
C'est Undergoldgrube.
Ce qui veut dire la mine d'or. Aujourd'hui, le couple est multimilliardaire.
Je suis très sûr que Uğur et Özlem ne sont pas principalement concernés par gagner de l'argent. Ils sont très riches maintenant.
Ce sont de vrais chercheurs. La preuve, dit-il, malgré des mois de travail ininterrompu, Uğur Sahin enseigne toujours à l'université et Özlem Türeci signera dans quelques jours son contrat de professorat.
C'est vraiment difficile de faire tout ça, c'est absolument impressionnant.
Dans le même temps, la start-up accélère sa capacité de production.
BioNTech a acheté à Marbourg une usine, ils l'ont acheté de Novartis, l'entreprise suisse. Ils ont ensuite construit ici à Mayence une grande entreprise seulement pour la production.
Avec ces 2 nouveaux sites, l'objectif en 2021 est de produire 1,5 milliard de doses du vaccin.
Ludovic Piétenu pour France Culture. Vaccin anti-Covid de la propriété privée au bien public. Nous ouvrirons la discussion dans les matins de France Culture à partir de 7h40 tout à l'heure avec Guillaume Erner et ses invités. C'est entre autres pour assurer la vaccination de toute la population que le Congrès aux États-Unis vient de se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien. 900 milliards de dollars. La Chambre des représentants démocrates et le Sénat républicain donnent leur feu vert. Il doit être entériné aujourd'hui par un vote. De l'argent pour le vaccin donc, et surtout pour les habitants directement, comme cela avait déjà été le cas au printemps dernier, Grégory Phillips.
À la mi-avril, des millions d'Américains avaient reçu un chèque de 1 200 $ signé Donald Trump, un virement ou une carte de crédit du même montant. Dans les prochaines semaines, ceux qui ont des revenus inférieurs à 99 000 $ par an, soit environ 9 Américains sur 10, recevront un nouveau chèque de 600 $, 1 200 par couple, 2 400 pour une famille avec deux enfants. Cette aide est un premier pas, a commenté hier soir la démocrate Nancy Pelosi, qui préside la Chambre des représentants, mais il faut faire, dit-elle, beaucoup plus pour aider les Américains. Le plan bipartisan prévoit aussi une aide de 300 $ par semaine pour ceux qui ont perdu leur emploi jusqu'à la fin mars. Enfin, un tiers de ce plan d'aide sera dédié aux petites entreprises, car l'économie américaine redémarre mais trop lentement. Ces deux dernières semaines, le taux de chômage est reparti à la hausse. Il avoisine désormais les 7% au lieu de 3,5% avant l'épidémie. Au 31 décembre, enfin, des millions de locataires américains incapables de payer leur loyer risquent l'expulsion.
Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Le Conseil d'État examinera tout à l'heure à 9h les recours déposés par les lieux culturels qui réclament leur réouverture. Différents recours ont été formulés par le monde du cinéma, du théâtre, de la musique ou du cirque. Tous ces recours seront sur la table des juges administratifs ce matin. Chacun va avancer ses arguments, requérant et ministère de la Culture. C'est l'avocat William Bourdon qui va plaider pour les lieux de culture, les lieux culturels, avec, dit-il, de solides arguments. Sans toutefois crier victoire.
C'est pas parce que les gens sont en colère que nous allons gagner. C'est pas parce que les établissements culturels souffrent que nous allons gagner. Parce que les mesures prises depuis des mois et des mois occasionnent des souffrances collectives, individuelles, dans ce pays extrêmement lourdes. Mais il y a un contexte. Et ce contexte, c'est évidemment une situation économique désastreuse pour les établissements culturels, ce ne sont pas les seuls, mais qui est susceptible d'entraîner toute une série de faillites de façon irréversible. Et le deuxième élément contextuel, c'est que, moi je fais partie de ceux, et je suis pas le seul, qui considèrent que dans une période aussi anxiogène, aussi troublée, aussi difficile, plus que jamais, la culture doit être considérée comme l'âme de la démocratie. Et comme une espèce de bouclier, d'antidote contre la violence, contre l'intolérance. En tous les cas, une vitalité indispensable pour un bien vivre commun qui est si gravement atteint et si gravement meurtri aujourd'hui. Et donc nous avons des arguments très forts, très puissants. Il ne faut jamais être trop confiant, mais nous pensons que nous avons des arguments très sérieux qui devraient convaincre le Conseil d'État de suspendre cette décision.
Les juges du Conseil d'État auront ensuite 48 heures pour se prononcer. C'était Maître William Bourdon qui répondait à Marie Sorbier pour l'émission Affaires culturelles de jeudi dernier sur France Culture. Benoît Payan devrait devenir aujourd'hui le plus jeune maire de Marseille. À 42 ans, celui qui était jusqu'ici premier adjoint est le successeur désigné de Michel Rubirola qui a démissionné la semaine dernière. Michel Rubirola se retire officiellement pour des raisons de santé, mais de nombreux observateurs y voient une manœuvre politique habilement orchestrée par celui qui s'apprête à prendre les commandes de la ville. Benoît Payan devrait donc être élu maire ce matin dans un fauteuil, Stéphane Robert.
On ne voit pas ce qui pourrait empêcher Benoît Payan de devenir maire de Marseille. Mathématiquement, les jeux sont faits. Le printemps marseillais compte dans ses rangs 44 conseillers municipaux, auxquels il faut ajouter les 9 élus qu'apporte la maire du 8e secteur, Samia Ghali. Benoît Payan devrait donc pouvoir compter sur au minimum 53 votes en sa faveur, au-delà donc de la majorité requise de 51 élus sur 101. La droite, avec 37 élus, avait potentiellement les moyens de lui faire barrage en démissionnant d'un coup d'un seul. Il suffit qu'un tiers du conseil municipal démissionne pour déclencher une nouvelle élection. Mais comme dans ce cas, on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver, personne n'était tout à fait sûr d'être réélu. Cette option a très vite été écartée. Benoît Payan devrait donc à coup sûr s'emparer du poste dont il a toujours rêvé. Pour beaucoup de Marseillais, c'est la fin d'une promesse de renouveau que portait Michel Rubirola et qui aura duré 2 saisons à peine. Au printemps a succédé l'automne et puis l'hiver. Au dire de nombreux observateurs sur place, Benoît Payan est un homme politiquement habile qui a su manœuvrer. Et cette affaire montre que la cité phocéenne continue d'être minée par les tambouilles politiciennes.
Le conseil municipal à Marseille aura donc lieu tout à l'heure à 8h30. Le temps s'annonce doux ce lundi car pluvieux sur une grande partie de la France métropolitaine, des pluies du Pays Basque jusqu'à la Lorraine. Seul le sud-est restera au sec aujourd'hui. Comptez donc 8 degrés ce matin à Lille, 9 à Paris et à Lyon, 10 degrés à Bordeaux, 12 degrés à Brest et à Marseille. Vous écoutez toujours France Culture, il est 6h40 et en cette fin d'année, nous vous proposons des enjeux internationaux allongés consacrés au changement du monde à cause du coronavirus. Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Julie, ce matin, la puissance chinoise renforcée.
Oui, en début d'année, il était difficile d'imaginer un tel renversement de situation. On vilipendait la Chine d'avoir minimisé le virus, si ce n'est de l'avoir caché. Et on était assez convaincus des conséquences politiques qu'une telle gestion allait avoir sur la population chinoise nécessairement. Inquiète et en colère, et puis à plus long terme sur la place de la Chine dans le monde. Alors comment la Chine a-t-elle transformé ce qui était une menace pour cette place sur la scène internationale à une opportunité pour la renforcer? Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Vous êtes l'auteur de Rouge vif, l'idéal communiste chinois, publié cette année aux éditions de l'Observatoire et qui a d'ailleurs reçu le prix aujourd'hui, prix décerné au meilleur essai. Alice Ekman, la puissance chinoise, elle se mesure entre autres par sa croissance. En cette fin d'année, elle est la seule parmi les grands pays du monde dont le PIB est progressé cette année. Comment y est-elle parvenue? Tout en misant sur la contrainte sanitaire.
Oui, en effet, la croissance du PIB chinois devrait se limiter à 1,9% en 2020 au lieu des 5,8% escomptés auparavant. Mais ça creuse quand même tout de même l'écart avec les autres puissances économiques puisqu'il s'agit ici de croissance en Chine alors que d'autres pays en sont loin actuellement. Alors, plus concrètement, comment la Chine parvient à ce chiffre qui reste toujours à vérifier compte tenu aussi de l'opacité qui entoure les indications de l'économie chinoise. Mais la Chine est notamment aujourd'hui portée par ses exportations qui ont bondi de plus de 21% en novembre. Et cela s'explique en partie, pas en totalité, mais en partie par la production de masques, de blouses, de gants, de tests antigéniques. Les ventes d'équipements médicaux chinois à l'étranger ont bondi de 42% sur un an. On note également une augmentation des ventes de détail dans l'automobile, dans les équipements de communication, tout ce qui est technologie mobile notamment, et puis plus généralement une hausse de la consommation intérieure actuellement. Mais au-delà des chiffres, ce que l'on voit vraiment dans les observations de terrain, c'est une reprise quand même de la consommation au quotidien, la fréquentation des restaurants, une forte aussi fréquentation des centres commerciaux, etc.
Avec aussi une croissance tirée par les investissements technologiques à l'intérieur du pays, alors qu'on a longtemps pensé qu'un pays tenu par un régime communiste et dirigiste ne serait pas capable d'innover. Les acteurs économiques chinois sont-ils plus que jamais, au bout d'un an d'épidémie de coronavirus, les relais directs des décisions prises par le Parti communiste? Est-ce que ça s'est renforcé, cette habitude?
Oui, alors il s'agit d'investissements technologiques de long terme. Ce n'est pas nécessairement ces investissements qui aujourd'hui amènent aux chiffres que nous avons indiqués. Mais c'est sûr que la Chine s'inscrit dans un plan d'investissement massif dans les technologies qui n'est pas nouveau. Il existait déjà le plan dit Made in China 2025. Et puis, vous vous souvenez, à chaque crise, la Chine, qui reste une économie très centralisée, très planifiée, mais à l'agenda de vastes plans de relance. Lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la Chine avait misé sur la relance en investissant dans les infrastructures de transport, les ports, les routes, les autoroutes, etc., les ponts, sur l'ensemble de son territoire. Aujourd'hui, elle mise sur une relance massive tournée vers ce qu'elle appelle nouvelles infrastructures, infrastructure, c'est-à-dire en gros les technologies, notamment le développement dans les prochaines années du réseau 5G, encore davantage sur le territoire chinois, de centres de données, développement de tout ce qui est mobilité verte, les véhicules aussi sans conducteur, intelligence artificielle, internet des objets, la blockchain, les crypto-monnaies, enfin réellement la Chine mise sur le tout technologique, dans une période aussi de rivalité technologique très forte avec Washington. Donc à la fois on a ce plan de relance des nouvelles infrastructures qui a été annoncé il y a quelques mois par le Premier ministre chinois, mais aussi en mars 2021, donc dans près de 3 mois, sera annoncé le 14e plan quinquennal qui s'étend sur la période 2021-2025 et qui également soulignera cet investissement vers les nouvelles technologies. Il faut bien comprendre aussi cette détermination chinoise de se positionner comme une puissance technologique, pas uniquement dans la 5G, mais dans tous les secteurs mentionnés auparavant et notamment l'intelligence artificielle.
La Chine qui compte déjà 100 millions d'abonnés à la 5G, la ville de Shanghai à elle seule a construit 50 000 stations, c'est ce que la France prévoit de faire sur tout son territoire d'ici 5 ans. Alice Ekman, les économistes disent que c'est la première fois que l'économie chinoise est à ce point découplée de l'économie mondiale. D'habitude, la croissance mondiale, elle repart des États-Unis. Là, le principal adversaire de la Chine sur le plan économique, vous le disiez, les États-Unis sont bien plus affectés par le virus. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Est-ce qu'en début d'année, on aurait pu imaginer ce renversement de situation?
Non, au début d'année, on était assez précautionneux sur les perspectives et les conséquences géopolitiques de la crise pandémique. Certains voyaient déjà l'avènement d'un monde chinois. Moi-même, je faisais attention à formuler cette perspective. Une chose est certaine aujourd'hui, c'est qu'en effet, on note un écart bien plus marqué sur la reprise économique, mais aussi tout simplement sur la gestion de la crise sanitaire, parce que la Chine semble aujourd'hui, bon, c'est pas tourner la page définitivement, puisqu'il y a encore des cas, mais semble en tout cas progressivement reprendre une vie normale au moment où les États-Unis déplorent plus de 300 000 morts. Et d'un point de vue diplomatique, la Chine mise réellement sur l'asymétrie des calendriers à deux niveaux. Tout d'abord, cette asymétrie, une Chine qui se relève alors que les États-Unis, l'Europe et d'autres pays font encore face au virus, mais aussi en regardant Washington, une asymétrie due au calendrier politique avec des États-Unis qui sont en période de transition. Et donc dans ce contexte-là, la Chine joue la montre en réellement multipliant les initiatives diplomatiques et en essayant de faire avancer certains projets à son avantage. Elle a par exemple poussé la signature avant la fin de l'année donc du traité de libre-échange en Asie, le RCEP. Mais elle pousse pour la signature d'un accord sur les investissements avec l'Union européenne. On ne sait pas s'il sera signé d'ici la fin de l'année, mais on voit vraiment cet activisme diplomatique marqué à différents niveaux et à destination de différentes régions.
Accord avec les Européens dont on nous dit qu'il serait peut-être conclu demain. On va y revenir à Alice Ekman, mais le quotidien du Peuple écrit aujourd'hui que la puissance chinoise stimulera la reprise mondiale post-Covid. La Chine, de son côté, essaye d'être moins dépendante du marché américain, de diversifier ses partenariats vers les pays en développement. Pour les pays fragilisés par le coronavirus, mais qui ont moins les moyens de lutter pour refuser l'aide de la Chine. Qui peut-on citer? Qui sont les pays qui ont vraiment eu recours à l'aide chinoise pendant cette épidémie?
Alors, la question peut aussi être posée dans les deux sens, c'est-à-dire vers quel pays la Chine a promu son offre, c'est-à-dire à la fois les masques, mais aussi les vaccins, et puis également son offre technologique pour gérer la crise, parce qu'elle le fait assez activement. Si l'on regarde les vaccins, par exemple, la Chine dispose actuellement de 4 vaccins en phase finale de test dans plus de 15 pays. On note réellement une période de test assez élargie avec des pays tels que le Brésil ou aussi le Maroc qui testent massivement certains des vaccins avec l'objectif de l'utiliser pour leur propre population, mais aussi d'être parfois des ponts pour l'utilisation dans d'autres pays.
Donc Brésil et Maroc.
Le Brésil, Maroc, mais c'est vraiment vraiment une dynamique tout azimut. Si l'on regarde plus concrètement, l'Asie du Sud-Est est considérée comme une zone prioritaire par la Chine. 7 pays en Asie du Sud-Est ont déjà reçu la promesse d'être prioritaires dans la distribution des vaccins chinois. Les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. Mais bien au-delà de l'Asie du Sud-Est, la Chine mène vraiment une diplomatie qu'on pourrait qualifier des vaccins assez active à destination de beaucoup de pays. On peut parler du Pérou, de l'Argentine, du Mexique, de la Turquie, mais aussi de l'Ouzbékistan par ailleurs.
Elle a aussi envoyé des équipements, genre technologie chinoise, caméra technique, au Kenya, au Liban. Mais au-delà du matériel strictement dédié à l'épidémie de coronavirus ou du vaccin, une dépendance est-elle en train de se faire jour, par exemple avec les pays producteurs de pétrole qui ont vu les cours s'effondrer et qui peut-être comptent plus que jamais sur les exportations vers la Chine?
Oui, en partie, mais c'est une tendance quand même plus large. On pourrait parler de dépendance énergétique avec une Chine qui repart et qui a besoin en effet de cette ressource énergétique, alors que la Chine elle-même dispose de peu de pétrole sur son territoire. Et puis on a vu aussi le renforcement des liens entre la Chine et certains pays du Moyen-Orient. Mais de manière générale, la dépendance s'établit aussi à d'autres niveaux. Vous avez parlé des technologies. La Chine a en effet promu, voire donné des caméras thermiques, des entreprises Dahua et Xvision par exemple, pour l'installation des aéroports argentins, également du Costa Rica. Les systèmes de vidéoconférence qui sont donnés, les systèmes de vidéoconférence Huawei qui sont donnés au gouvernement du Sri Lanka, de l'Ouganda, du Ghana, du Kenya, du Pakistan, la liste est assez longue. Et donc on a aussi un ajustement du projet chinois des nouvelles route de la soie, pas une disparition parce qu'il s'agit du projet central phare de Xi Jinping, un ajustement, c'est-à-dire une réduction de la voilure en termes d'investissement dans les infrastructures de transport qui sont très coûteuses, avec notamment des pays, certains pays endettés qui ne pourront peut-être pas rembourser les prêts chinois, mais un développement de ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie numérique et aussi sanitaire. Donc, c'est-à-dire un ajustement vers d'autres types de produits aussi moins risqués en termes d'investissement long terme pour la Chine.
Alors cet accord sur les investissements que la Chine et l'Union européenne disent être proches de conclure, qu'est-ce que chacun compte en tirer? C'est-à-dire que les Européens estiment quand même depuis longtemps que leurs marchés sont beaucoup plus ouverts aux investissements chinois que le marché chinois ne l'est au leur d'investissement. Qui va gagner quoi? Qu'est-ce que la Chine compte en tirer?
Alors là, il faut faire très attention sur la signature de cet accord, hein, parce qu'il y a eu ces derniers jours, beaucoup d'annonces, mais assez surprenantes compte tenu du fait que même si Angela Merkel avait pour objectif il y a quelques mois de signer, de promouvoir la signature de cet accord d'ici la fin de l'année, les négociations étaient jusqu'à présent au ralenti, notamment compte tenu du fait que la volonté européenne d'avoir un accès facilité au marché chinois, les garanties n'étaient pas établies. En plus à cela, là, c'est greffé aussi, il y a quelques jours, le sujet du Xinjiang qui a été largement débattu au Parlement européen et qui aborde aussi la question du travail forcé. Et donc là, on a aussi des divergences entre la position du Parlement européen et celle de la Commission, et une volonté vraiment chinoise d'accélérer les négociations pour une signature d'ici la fin de l'année.
Travail forcé des Ouïghours que le Parlement européen, évidemment, va remettre sur la table quand il s'agira peut-être de ratifier cet accord.
Oui. Donc il y a vraiment une attente au niveau de la Commission d'avoir un accès facilité au marché chinois, mais en même temps, on voit côté chinois une trajectoire assez constante, qui est celle du renforcement de l'État et du parti dans l'économie, notamment des cellules du parti dans les entreprises publiques, mais aussi privées, et aussi du renforcement de la planification de l'économie. Donc la tendance générale n'est pas du tout celle d'une libéralisation du marché chinois. Au contraire, donc ces négociations s'insèrent dans un cadre politique particulier.
cadre politique particulier, aussi parce que les États-Unis sont en train de changer de président, et vous disiez tout à l'heure, ils aimeraient quand même que tout ceci passe dans cette période de transition qui serait propice pour peut-être contrebalancer un petit peu ou rééquilibrer un petit peu le jeu, la guerre commerciale sino-américaine. Est-ce que 2021 sera celle d'un... sera l'année d'un de chamboulement de à venir sur cette guerre-là?
Alors certainement que la rivalité Chine-États-Unis va se prolonger, et à différents niveaux. Au niveau commercial, elle restera probablement, même si dans la forme, sous l'administration de Joe Biden, peut-être que les échanges entre Washington et Pékin seront moins frontaux. Mais sur le fond, il est peu probable que l'on note un apaisement de cette rivalité, rivalité qui est plus que commerciale, qui est également technologique. Et encore récemment, la liste des entités considérées comme non fiables par Washington, notamment nombreuses entités chinoises, s'allonge, et en même temps, la Chine répond œil pour dent avec une liste d'entités non fiables, comprenant notamment des entreprises américaines. Donc, on va progressivement vers ce découplage auquel vous avez fait référence au début d'émission, découplage partiel avec une économie chinoise qui essaie d'être de moins en moins dépendante du marché américain, mais de manière générale des marchés occidentaux, y compris européens, c'est-à-dire de pouvoir produire un smartphone de A à Z sans avoir recours aux semi-conducteurs américains, c'est-à-dire de pouvoir développer des ensembles dits de smart cities qui soient de plus en plus chinois, avec une Chine qui essaie de plus en plus de chasser en meute avec des groupements d'entreprises qui proposent des technologies compatibles à un moment où de plus en plus d'entreprises chinoises et américaines sont incompatibles. Donc on va vers cette trajectoire-là, et il ne faut pas sous-estimer non plus, bien sûr, la rivalité politique et idéologique qui existait déjà depuis 2013, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, au moment où Obama, l'administration Obama, est au pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas dépendant uniquement des résultats des élections présidentielles américaines. Il y a une détermination très claire côté de Pékin de promouvoir son modèle de gouvernance vis-à-vis d'un nombre croissant de pays en développement, en soulignant notamment les faiblesses présumées des États-Unis. Et ces faiblesses sont régulièrement soulignées au journal télévisé chinois tous les jours.
Merci beaucoup, Alice Ekman, d'avoir été avec nous ce matin.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Ce lundi, nous parlons de l'apprentissage de l'arabe.
Sur France Culture, Être et savoir, Louise Touret.
C'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité et dont le président de la République s'emparait récemment. L'occasion pour nous d'évoquer le rapport complexe de la France aux langues d'origine, qu'elles soient étrangères ou régionales. Question à la fois historique, académique, politique, mais aussi très intime que celle des langues que l'on parle, que l'on oublie et que l'on apprend.
Être et savoir, le lundi à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Oui. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus à Miss France, en passant par l'affaire Epstein.
Et oui, et c'est cela la nature de l'antisémitisme, être capable de s'appliquer à tout thème, toute personne, tout motif, depuis Mister Dreyfus jusqu'à Miss Provence. Il n'existe pas un domaine, pas une croyance ou une superstition où il n'est pas question, où il n'est pas possible qu'il soit question d'une manière ou d'une autre de juifs. C'est cela, la puissance de l'antisémitisme. Alors, Miss Provence alias April Benayoun a expliqué qu'elle avait des origines israéliennes, s'attirant en retour non pas des remarques sur la politique israélienne, mais des commentaires sur la politique hitlérienne, laquelle n'aurait pas été ambitieuse à certains égards, je le signale, uniquement pour tous ceux qui voudraient croire encore qu'il ne s'est agi que d'antisionisme et pas d'antisémitisme tout court. Donc, il peut y avoir une version antisémite de l'élection de Miss France et c'est cela la spécificité de l'antisémitisme. Demain, il y aura peut-être un épisode antisémite à Fort Boyard, un interville anti-juif, un fais pas ci, fais pas ça, les juifs ou bien un tour de France judéophobe. Je dis ça tout simplement parce qu'il est possible de tout mêler à l'antisémitisme. Songez au Covid. A priori, le SARS-CoV-2 n'est pas sémite, il n'est pas né dans le Houmous ou le Gefilte Fish. Les pangolins, si ce sont eux, les responsables n'ont pas décidé de propager le SARS-CoV-2 dans une synagogue de Wuhan, mais ça n'est pas grave, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, le coronavirus a sa version juive ou plutôt antisémite, où il est question de Lévi de Cohen, preuve que tout en France peut avoir une dimension juive. Alors voilà pour l'affaire Miss France, l'affaire Covid et l'affaire Epstein. Eh bien, elle concerne un Epstein, ce pédocriminel américain, là, impossible d'échapper à l'antisémitisme puisque le nom du criminel est un nom juif. Eh bien, en lisant le JDD hier, je suis tombé sur une photo d'un homme en garde à vue dans l'affaire Epstein, un certain Jean-Luc Brunel. Brunel est soupçonné d'être l'un des complices d'Epstein. Brunel, si vous voulez tout savoir, ce n'est pas un nom juif. Mais sur la photo illustrant l'article, Brunel portait une casquette où il était inscrit Israel Army. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi avoir choisi cette photo-là? J'en voulais à ce type de ne pas avoir posé avec une casquette de l'armée bosniaque ou tamoule ou que sais-je. J'en voulais aussi au journal de ne pas avoir choisi une autre photo de ce type, puisque j'imagine que ce Brunel n'a pas toujours une casquette de l'armée israélienne vissée sur la tête. Mais voilà la puissance de l'imaginaire en France aujourd'hui. Toute histoire, n'importe laquelle, du vaccin à Jean-Luc Brunel, doit finir en histoire juive.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.